Alors nous prenons Luc au chapitre 12. Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Le Seigneur dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et quand je voulais donner ce passage, je voulais en même temps aussi donner Matthieu 6, 33, chercher d'abord le royaume des cieux. Mais on n'a pas besoin d'aller dans Matthieu 6, 33, parce que c'est juste avant le verset que je donne, Luc 12, 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc c'est lié. Le passage de Luc 12, 32, je voulais le relier ça à Matthieu 6, 33. Je ne m'étais pas rendu compte que Matthieu 6, 33 se trouve juste avant. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Le Seigneur nous dit, petit troupeau, votre Dieu vous a donné le royaume. C'est quoi le royaume de Dieu, le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est par l'endroit où il y a le règne de Dieu. Et vous vous souvenez de la parabole de l'ivraie et du blé? Dans le royaume de Dieu, il y a aussi l'univers, puisqu'il y a aussi l'ivraie. Puisque quand Jésus parle de l'ivraie et du blé, il dit, à quoi comparerons-nous le royaume des cieux, le royaume de Dieu? Donc on peut comparer ça à un champ où on a semé le blé et quelqu'un d'autre est venu semer livré. Il a aussi parlé du royaume de Dieu. Et comment, à quoi peut-on le comparer dans Matthieu 13 aussi, lorsqu'il parle de la parabole du semeur. Donc on voit bien que dans le royaume des cieux, il y a une différence entre le royaume de Dieu qui regroupe tout et peut-être le royaume des cieux qui concentre voilà, l'endroit où Dieu seul est avec les anges, donc tout ce qui est bien. Voilà, donc le royaume de Dieu regroupe tout. Mais pourquoi on appelle ça royaume de Dieu quand même? Parce que Dieu gouverne sur tout, il domine sur tout. Donc même là où il y a le mal, Dieu domine quand même d'une certaine manière. C'est pourquoi certains traduisent le royaume de Dieu en disant le règne de Dieu, la domination de Dieu. Donc la domination de Dieu est sur tout. Et maintenant, Dieu dit, petit troupeau, votre Dieu vous a confié le royaume. Aujourd'hui, nous prions pour la France parce que Dieu nous a confié la France. Il nous a confié le royaume. On se souvient de Paul dans le bateau. L'ange, quand il lui est apparu, il a dit, Dieu t'a donné les gens qui sont dans ce bateau-là. Ça ne veut pas dire que forcément c'est des bonnes personnes. Mais c'est des gens qui étaient dans le même bateau que Paul. À partir de là, Dieu a confié ces gens à Paul. Et nous sommes dans le même bateau qu'on appelle la France. Donc Dieu, il dit, petit troupeau, votre Dieu vous a donné le royaume. Les premiers chrétiens étaient conscients de ça. Donc quand ils faisaient le travail, ils considéraient que c'est leur responsabilité la ville. C'est leur responsabilité, leur région, c'est leur responsabilité, leur pays. Ils considéraient ça à tel point qu'ils ont gagné tout l'Empire romain. Alors qu'ils étaient persécutés, ils ont pu gagner quand même tout l'Empire romain à cause de l'esprit de responsabilité. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, les réflexions et les raisonnements tournent autour du fait « Qu'est-ce que je dois faire pour être un meilleur chrétien ?» Qu'est-ce que je dois faire pour être un combattant? Qu'est-ce que je dois faire? Non, la Bible veut d'abord que nous sachions qui nous sommes. C'est ça qui est important pour Dieu. avant de commencer à réfléchir sur que dois-je faire, il faut commencer par réfléchir qui suis-je, pour se poser la question qui suis-je. Quand tu sais qui tu es, à partir de là, l'inspiration vient pour ce que tu dois faire. Mais si tu ne sais pas ce que tu es, tu vas bricoler. C'est une vie. Moi, j'appelle ça la dinette. Vous savez, quand on était petit, on jouait à la dinette. Donc, vous avez des petites casseroles, des petites fourchettes, des petites assiettes. Un tel, c'est le papa, un tel, c'est la maman. Donc, il y a des chrétiens qui jouent à l'église, qui jouent à la dinette. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ont une idée vague. Donc, on est là, on se prépare pour aller au ciel. Et puis, on a la protection de Dieu. C'est des idées vagues. Il ne faut pas que les idées soient vagues. Il faut que les choses soient claires. Nous sommes les fils du Dieu Très-Haut, envoyés sur terre pour établir le règne de Dieu avec les moyens qu'il nous donne. Il faut que ça soit clair. Quand pour quelqu'un c'est clair, bien-aimé, vous n'aurez pas de difficulté à voir cette personne dans la prière. Quand c'est clair pour quelqu'un, vous n'aurez pas de difficulté à voir cette personne dans l'évangélisation, dans le chant, dans le service de Dieu. Mais quand ce n'est pas clair, c'est pourquoi nous passons notre temps à haranguer les gens. Mais faites ceci, faites cela, mais non, mais ça ne marche pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas. Donc nous devons prier, prêcher jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte. Comme David, quand il arrive sur le champ de bataille, il voit les enfants d'Israël fuir Goliath. Il dit, mais ces gens-là ne sont pas conscients que cette armée-là, c'est l'armée de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Moi, je vais battre Goliath. Ah, mais les gens étaient étonnés. Les gens étaient dépassés. Votre père vous a donné le royaume. David était conscient de ça. Il a eu le royaume. On a commencé à parler de ça depuis hier, mais c'est écrit. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, mais pourquoi nous expérimentons pas cela? Parce que la deuxième partie, nous négligeons souvent ça. Le verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Vendez tout ce que vous possédez. Alors, le chrétien est confronté à deux choses. D'un côté, on lui demande de travailler pour le ciel. De l'autre côté, c'est un humain. Il se dit, mais tiens, je dois avoir des voitures comme tous les autres humains, des maisons comme tous les autres humains, des enfants comme tous les autres humains. Je dois me marier. C'est ce que notre Seigneur appelle les soucis de la vie dans Matthieu 13. Je dois m'habiller. Donc, il a les deux en même temps. Maintenant, Jésus lui dit, dans le 33 et dans le 31, ne t'occupe pas de ces choses-là afin que tu sois prince dans le royaume de Dieu. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste viendra tout seul. Et au 33, il dit, vendez ce que vous possédez, c'est-à-dire ne possédez pas. Donc, ce que tu peux avoir, enfant, mariage, maison, voiture, considère que ce n'est pas à toi. Toi, passe ton temps à réfléchir sur qu'est-ce que Dieu attend de toi. Et lui, maintenant, quelqu'un dirait, mais bon, c'est dur. Mais Dieu t'enlève cette dureté-là en te disant qu'il s'occupera du reste. Si encore il avait dit, je veux juste que tu te sacrifies pour moi. Là, beaucoup allaient dire, mais c'est dur, on se sacrifie. Mais là, il dit, je t'assure qu'en lâchant ce que je te demande de lâcher, moi, je m'occuperai de toi pour le reste. À un moment, Pierre dit au Seigneur, « Mais Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. » Jésus dit, « Il n'y a personne qui ait laissé père, mère, fils, fille, et qui me suive, et qui n'ait pas en retour 100 fois plus de pères, de mères, de filles. Il aura ça en grande quantité en plus. » Mais l'homme s'accroche aux choses de la terre. Et c'est ça qui nous empêche d'expérimenter le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a aujourd'hui des pasteurs qui ont des chaînes de télévision, c'est ça le royaume. Non. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises qui ont des chaînes de télévision. Mais la foi a baissé aux États-Unis. Les États-Unis ne sont plus les États-Unis d'il y a un siècle. Toute forme de satanisme est en train de proliférer là-bas. Pourquoi ? Parce que les pasteurs apprennent aux chrétiens à aimer les choses de la terre. Comment réussir son mariage ? Comment réussir son travail ? Et tout ça, ça se prêche dans l'église. Comment réussir ceci ? Donc on veut gagner la terre. Oh, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit « Vendez tout ce que vous possédez. » Car là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Acte 2, 42 nous montre ça. Nos bien-aimés ont pratiqué. On prend acte 2. À partir du verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Souvent nous disons, mais nous ne vivons pas ça, mais les actes des apôtres, les miracles, mais nous ne vivons pas ça parce que nous avons oublié Luc 12, 33 qui nous dit, nous ne devons pas être accrochés à la terre, nous devons chercher de tout notre cœur à servir le Seigneur et lui s'occupera du reste. Ça ne veut pas dire, bien aimé, qu'il ne faut plus travailler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus nourrir ses enfants, ça veut dire tout simplement qu'ayant fixé une priorité, c'est Dieu. Dieu nous ramènera à tout ça. Quand Jésus a dit aux apôtres, nourrissez-les vous-même, il savait bien que c'est lui-même qui allait nourrir les gens en multipliant les pains, mais il voulait que les apôtres prennent la responsabilité d'abord. Donc quand le Seigneur nous dit cherchez d'abord le royaume des cieux, il ne nous dit pas qu'il néglige la nourriture, il néglige le vêtement, il refuse les maisons ou les voitures. Il dit tout simplement, si vous vous occupez de moi, moi je m'occuperai de vous. Et vous ne manquerez de rien. Mais c'est ce risque-là, beaucoup de gens ne veulent pas prendre ça. Surtout avec les fausses prédications qui nous enseignent, comme les gens du monde, à amasser, à chercher le salut terrestre. C'est une erreur, bien-aimés. Je nous dis la vérité. Il faut chercher le royaume de Dieu. Et on sera étonné de ce que Dieu va faire. Vous savez, c'est écrit dans la parole, il y avait dans Actes des Apôtres au chapitre 4, il n'y avait plus d'indigents au milieu d'eux. Actes des Apôtres au chapitre 4. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun pauvre, aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Voilà ce qui se passait. Ces gens-là avaient compris qu'ils étaient des citoyens du ciel, qu'ils étaient de passage. Est-ce que vous imaginez quelqu'un prend le vol avec deux bagages en main remplis de nourriture, sachant que dès que le vol est fini, toute la nourriture qui sont dans les bagages en main sera périmée. Tout ce qui sera dans le bagage en main va pourrir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que tout ce qu'il a là, dans ce bagage, soit distribué à tout le monde, que les gens mangent, soient tranquilles dans l'avion. Il sait que s'il garde ça, à la fin, ça va pourrir. Il y a encore une leçon dans la parole, c'est la manne. Dieu avait dit que la manne, on devait la manger que le même jour. Tous ceux qui voulaient garder, ça va pourrir. Mais bien aimé, les chrétiens doivent comprendre qu'ils sont citoyens du ciel. à quoi ça sert de vouloir amasser alors qu'il faut juste distribuer ça sur terre, vivre comme des voyageurs, comme c'est écrit par ailleurs, 1 Pierre 2:11, vivre comme des voyageurs, parce que ceux qui gardent, ça va pourrir, bien-aimés, nous ne sommes pas les premiers à être riches. Il y a des gens qui ont été plus riches que nous, fois 1000, fois 1 million. Mais est-ce que quand ils ont été enterrés avec ce qu'ils avaient? Non, ça a pourri pour eux. Ils ont été enterrés seuls. Jésus insiste à tel point que Jésus lui-même a vécu une vie sans possession. Au fait, c'est pour nous montrer l'exemple. Pourquoi nous suivons l'exemple de Jésus pour le baptême? Plongé dans l'eau, on se fait baptiser. On veut suivre l'exemple de Jésus pour les miracles, pour la prédication, mais on ne veut pas suivre les autres parties de Jésus. Lui qui vivait comme ne possédant rien, mais l'apôtre Paul dit, mais possédant tout en même temps. Parce que qu'est-ce qu'on a en échange de tout ça? On a le royaume. La Bible est claire dans Luc 12. La Bible ne dit pas qu'on devient pauvre. Non, non. Il est écrit que dans Luc 12, au verset 33, on se fait des comptes bancaires parce que le langage bourse, aujourd'hui, on ne l'emploie pas dans notre terre, dans notre époque. À notre époque, on emploie le langage compte bancaire. Donc là où c'est écrit « Faites-vous des bourses dans les cieux », nous, on traduirait « Faites-vous des comptes bancaires dans les cieux ». Luc 12, 33. « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. » Un trésor inépuisable dans les cieux. Le Seigneur ne veut pas dire qu'on n'aura plus rien. Il dit tout simplement que ça, c'est des comptes bancaires qui ne sont plus terrestres, mais ils sont célestes. Donc le Seigneur est en train de nous proposer, pas la pauvreté, mais il nous propose des comptes beaucoup plus sûrs que ceux qu'on a sur terre. Mais de quelle manière? En nous dépossédant, en nous considérant comme n'ayant rien sur terre, en gérant ce que nous avons. Que ce soit maison, voiture, enfant, bien matériel. Il faut gérer ça comme les biens du Seigneur. À partir de ce moment-là, le Seigneur dit, on investit au ciel, on a des choses solides au ciel. Il n'est pas en train de dire qu'on n'a plus rien. Il dit, vous vous faites des bourses, des comptes au ciel. Là où le voleur n'arrive pas. Puisque combien de gens nous avons connus? Hier, quelqu'un me parlait de son frère qui gagnait 7 500 € par mois, aujourd'hui qui n'a plus rien. Les impôts sont passés par là et il n'a plus rien. On a connu combien de riches, nous qui avons un certain âge, qui n'ont plus rien aujourd'hui. Et même celui qui meurt avec 10 maisons, mais est-ce qu'il est enterré avec ça? Il n'a plus rien. Le Seigneur nous dit, n'est pas en train de nous prêcher le dépouillement pour le dépouillement. Il veut nous faire accéder à une richesse plus grande. C'est-à-dire qu'on a maintenant des bourses au ciel, des comptes au ciel. Et à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, le compte s'ouvre. Mais la différence avec les comptes terrestres, les impôts n'arrivent pas là-bas. La différence avec les comptes terrestres, c'est qu'on ne peut pas voler. La différence avec les comptes terrestres, c'est que c'est infini. Les comptes célestes sont infinis. Alors, si les chrétiens vraiment marchaient dans cette dimension-là, je vous dis, bien-aimés, on fera des exploits. C'est qu'on vient, on vient de dire dans Actes des Apôtres, chapitre 4 et chapitre 2, à chaque fois, Dieu rajoutait le nombre de sauvés. Nous venons de prier pour une certaine personne qui a... On a dit d'elle qu'elle avait sa propre conception de Dieu. Mais comment amener les gens à venir au véritable Dieu? Si en réalité, notre conception se ressemble. Parce que quand on dit que cette personne a sa conception de Dieu, il y en a pour qui Dieu s'est croisé les doigts. Il croise les doigts et il a le boulot. Toi, tu vas prier et tu as le boulot. Donc, quelque part, vous vous en sortez pareil. Il consulte un féticheur et sa maladie est guérie. Toi, tu pries, ta maladie est guérie. Quelque part, vous semblez être pareil. Maintenant, Dieu veut nous faire dépasser cette dimension-là. Une dimension où, sans faire comme eux, c'est-à-dire chercher des solutions pour le travail, chercher les solutions pour la maladie comme des païens. Lui, il veut qu'on cherche le royaume de Dieu. Et lui va faire des miracles qui dépasseront ce qu'un païen peut expérimenter. c'est ce qu'il veut. Mais tant que nous, nous continuons à marcher selon les schémas des païens, Dieu ne fera pas de miracles. Il attend qu'on accepte, comme il dit, il faut les outres neuves pour le vin nouveau. Si les outres ne sont pas neuves, le vin nouveau ne sera pas donné. Pour que Dieu donne le vin nouveau, notre conception doit changer. On doit accepter de marcher avec les comptes bancaires célestes et non les comptes bancaires terrestres. On doit accepter de marcher comme si ce que nous avons n'était pas à nous. Et considérer ses enfants comme étant les ouvriers que Dieu t'a donné à gérer, à faire grandir. Moi, j'appelle ça, à 24 ans, tu livres le colis de Dieu, comme il faut, en bon état. C'est ça que Dieu t'a demandé. Il ne t'a pas demandé de posséder l'enfant, devenir comme une poupée, commencer à surveiller qui a fait ceci sur mon enfant, qui a fait cela sur mon enfant. Non, les enfants ne sont pas des poupées. C'est Dieu qui nous les a confiés pour qu'ils le servent, bien-aimés. Et il faut prendre ça au sérieux. Donc, tant que nous refusons d'adopter le schéma du Seigneur, lui-même qui pouvait être immense et riche. Vous savez que Paul, quand il était en prison, il y a le gouverneur qui est venu le voir. Et il est écrit que le gouverneur pensait que Paul puisse le corrompre. Pourquoi le gouverneur pensait que Paul pouvait le corrompre? Parce que le gouverneur voyait, était au courant de qui visitait Paul. Il voyait que les gens de haut niveau venaient visiter Paul. Donc il s'est dit, Paul doit être immensément riche. Alors vous voyez quelqu'un qui est en prison, mais c'est le gouverneur qui veut chercher à ce que Paul le corrompe. Donc ça veut dire que Paul était puissant pour que le gouverneur pense que lui, il devait le corrompre. Donc c'est cette puissance que Dieu veut nous donner. Mais tant qu'on est accroché au sol de la terre, on n'aura pas cette puissance, bien-aimé. C'est écrit, pour avoir des bourses dans les cieux, il faut vendre les choses de la terre. Tant que les gens veulent les deux, c'est impossible. Dieu ne marchande pas sa parole. C'est impossible. Bien-aimé, Dieu dit petit troupeau. Il ne dit pas grand troupeau. Petit troupeau, votre Dieu vous a donné le royaume. Et il est en train de parler à l'Église, corps du Christ. Prenez le royaume. Avec Daniel et ses amis, ils étaient à quatre. Ils ont pris le royaume de Babylone. Quatre personnes. Joseph, tout seul. Il a pris l'Égypte. Tout seul. Vous connaissez les Écritures. Tout seul. Aujourd'hui, Dieu te demande de te joindre à son Fils et qu'ensemble vous preniez la France. Mais ça demande à changer d'attitude par rapport au matériel, à changer d'attitude par rapport aux choses de la terre. C'est ça la vérité. Et les gens verront. Vous savez, quand on fait les concerts et que les gens cherchent, posent la question, mais comment vous faites? On dit c'est gratuit. Mais oui, c'est gratuit. Ça, c'est le premier témoignage. Mais si on faisait le concert, même si vous faites avec des belles voix, avec de bons instruments, mais dès qu'on va mettre droit d'entrée 20 euros, c'est fini. Le témoignage est mort. C'est fini! Donc, parce que vous faites comme Johnny Hallyday. Peut-être vous chantez les chants avec le mot Dieu, mais Johnny Hallyday aussi chante bien. Voilà, c'est pareil. Mais quand ils voient que c'est gratuit, ils disent non. Ils utilisent les mêmes instruments que les orchestres qui font payer. Chez eux, c'est gratuit. Donc, ils ont une autre source. Ils réfléchissent, bien-aimés. Ils réfléchissent. Il y a quelqu'un qui est musulman, qui vient me voir, qui me pose le problème. Avec sa femme, je lui dis, bon, il dit, vraiment là, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Je lui dis, bon, on va prier. Moi, je vais prier, on va voir. 2 jours après, il me voit, il me dit, bon, tes prières ont été entendues, ça va mieux. Voilà. Donc, la personne doit voir qu'il y a une différence entre ses prières et lui. Parce qu'il dit, mais moi, je prie, je vais tout le temps à la mosquée. Mais la situation s'empire. Je lui dis, moi, je vais prier, on va voir. 2 jours après, il me dit, mais tes prières ont été entendues. Donc, il faut que Dieu, par nous, marque la différence entre chaque conception de Dieu et le véritable Dieu. Mais il a besoin des gens dépouillés de la terre. Dépouillés. Si on continue à marcher avec les deux systèmes, ça ne marchera pas. Dieu ne fera rien. C'est-à-dire qu'on sera juste, on aura notre salut. Et un jour, on part au ciel pour pleurer là-bas, Seigneur, si je savais. Parce que quand tu vas arriver au ciel, tu vas dire, oh, mais je crois que si les gens sont conscients, Je dis, mais dans le cercueil, on n'a pas mis mes chaussures. Alors, qui va mettre tes chaussures dans le cercueil? Donc les gens vont... Il y a des cousins qui vont se les partager. Même les chaussettes ne seront pas mises dans le cercueil. Tu es là dans le cercueil, oh, on m'a tout pris. Oui, oui. Tu pars tout seul. Et là, tu arrives au ciel. Ah, Seigneur, si je savais que c'était comme ça. Mais si, le Seigneur va dire, mais tu savais. Mais ce n'est pas grave. Je suis tes larmes. Reste. Tu vas peut-être cirer les chaussures des vrais combattants. Voilà. Mais c'est, Dieu veut un statut pour nous de gloire. Et ça commence sur la terre. Il faut comprendre qui tu es. Tu es un enfant du ciel. Tu es un fils du Très-Haut. Tu ne dépends pas de la crise économique. Tu ne dépends pas du CDI. Si tu commences à courir après le CDI, le CDD, je ne sais pas quoi, il y a un problème. Tu n'as pas encore compris qui tu es. Toi, tu dois courir après Dieu et Dieu te donnera le reste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des CV. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des lettres de motivation. Mais tu sais que tu le fais parce qu'il faut le faire, mais toi, tu t'attends au Seigneur. Parce que tu vis selon un autre régime. C'est ça la réalité. Tant qu'on n'entre pas dans cette dimension-là, bien-aimé, nous serons toujours là à dire, ah, petit troupeau, votre Dieu vous donne le royaume, mais il ne vous donne qu'une salle, c'est tout. Voilà, donc petit troupeau, votre Dieu vous donne le royaume, mais il n'y a que ton cœur qui est sauvé. Bon, la famille même ne voit pas. Je me souviens d'un de mes frères qui me disait, à propos de ma sœur, il me disait, mais ta sœur, elle est diaconesse. Mais dès qu'il y a un problème, elle panique et commence à pleurer. Voilà. Donc comment quelqu'un qui est semi-chrétien, semi-païen, va se convertir vraiment quand il a un tel voisinage? Il faut qu'il y ait une différence. Mais la différence commence par le dépouillement. Donc tu vis comme un citoyen du ciel et Dieu va honorer cela par des miracles, par des prodiges. Ces gens-là, il est écrit qu'ils ne considéraient pas leur maison comme leur maison. Ils ont mis tout au service parce que de Dieu, parce que ils sont dans un avion. Vous savez, quand on est dans un avion, plus rien ne compte. On sait que bon, on est de passage. On ne va pas bâtir une maison dans un avion. On sait qu'on est de passage. Vivons comme des gens de passage. Et Dieu glorifiera son nom. C'est très important d'arriver au ciel. Il est écrit, moi je me suis toujours posé la question, mais pourquoi le Seigneur essuiera nos larmes? Alors qu'on arrive au ciel, Apocalypse 21:4, il est écrit, il essuiera toutes les larmes. On arrive au ciel, il essuie encore les larmes. Je crois qu'il y aura deux formes de larmes. Les premières larmes, c'est en entrant au ciel, on aura un peu de souvenirs encore de ce qui était sur la terre. On pleurera de toutes ces douleurs-là. On est sauvé, enfin, comme si c'est quelqu'un était dans une position difficile, en train de se noyer, puis il est sauvé, il pleure. Ou quelqu'un qui sort de l'hôpital d'une grave maladie pleure. Il y aura ça, mais il y aura aussi les larmes de regret. Ah, si je pouvais utiliser ma vie sur terre pour servir le Seigneur comme il faut, parce qu'au ciel, c'est fini, tout est facile. Il n'y a plus d'efforts à faire. C'est Dieu qui donne tout. Donc au ciel, tu ne peux pas prouver au Seigneur que tu l'aimes, parce que tu l'aimes naturellement. C'est ici sur terre. Il faut prouver son amour pour le Seigneur. Il faut manifester son attachement à lui. C'est ici. Au ciel, tu ne peux rien faire. Tout est fait par Dieu. Et je crois que beaucoup pleureront de n'avoir pas consacré leur vie sur terre à Dieu. Et ils se rendront compte du fait que la terre, c'était comme 5 minutes. Ça passe très vite, très vite. Ils se rendront compte. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons Mohamed Ali avec Parkinson. Mais je me rappelle quand j'étais petit, j'avais 7 ans. Je restais avec mon père. Il attendait 2 heures du matin, 3 heures du matin pour regarder le combat de Mohamed Ali contre Léon Spinks, 1978, bien-aimé. Ça paraît la veille, hein, puisque je m'en rappelle encore. Il fallait rester à 3 heures du matin pour regarder ça. Mais ça passe très vite. Mais imaginez maintenant quand on arrive au ciel, tu te dis, oh là 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 là. J'ai gagné quoi sur terre? J'ai gagné quoi? Parce que tout est resté et parfois ça a été détruit. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions que tu nous aides à ne pas nous accrocher aux choses de la terre et à courir après les choses célestes, Seigneur. Nous ne voulons pas pleurer de regret au ciel, au paradis. Nous voulons écouter ta voix qui dit « Entre dans la joie de ton maître, fidèle et bon serviteur. » Nous ne voulons pas entrer au ciel comme juste des sauvés. Nous voulons entrer au ciel comme des combattants, des guerriers qui entrent, comme nos frères Paul et Pierre, avant leur mort, ils disaient « La couronne m'est réservée ». Ils ne disaient pas « Le salut m'est réservé ». La couronne, parce qu'ils avaient déjà le salut, mais ils avaient en plus la couronne, parce qu'ils étaient conscients que sur terre, ils ont bâti leur couronne. Sur terre, ils ont bâti la couronne de vie, la couronne de vérité. Pierre et Paul, ils en ont parlé. Ils sont passés de la dimension du salut à la dimension de la couronne. Seigneur, en se dépouillant sur la terre pour te servir. Mais Seigneur, lorsque nous lisons aussi les Écritures, nous voyons qu'ils n'ont manqué de rien. À tel point que le gouverneur pensait que Paul pouvait lui donner l'argent. Parce que lui qui était si riche, croyait que Paul est plus riche encore que lui. Parce que la puissance qu'il y avait en Paul était plus que l'argent. Et dans les regards de certaines personnes, ça donnait l'impression qu'il était immensément riche. Merci Seigneur de nous aider à saisir cette puissance céleste, ce règne céleste à travers le dépouillement terrestre au nom de Jésus, à ne pas nous accrocher aux choses de la terre. Que Dieu soit béni. Dans Genèse 13, il nous est donné une clé pour posséder le pays. Et nous allons lire ça pour demain. Genèse 13, versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, verset 17, c'est ça qui nous intéresse, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Voilà, donc c'est 14 à 17. Et puis Josué 1, 3 nous dit, « Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. » Et une fois, nous avons en 2007 fait le rallye de la Normandie en voiture pour prier. Et demain, nous ferons un effort pour prier pour toutes les villes qui entourent la Normandie et consacrer la Normandie au Seigneur. Que Dieu nous inspire le sujet au nom de Jésus. Amen.